grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. L'héritage, les successions, des sujets abrasifs, souvent explosifs dans les familles, matière à fiction, relisez par exemple Ursule Mirouette de Balzac. Au-delà des questions financières et matérielles, hériter reste une question de sentiments et d'émotions. Combien m'aimes-tu, pourrait-on se dire au moment d'hériter? Nous verrons ce matin comment préparer au mieux sa succession en évitant la guerre dans une fratrie. Est-il vraiment possible de transmettre en paix, sans haine ni rancœur? Quelles sont les règles légales pour rédiger un testament? Peut-on privilégier un membre de sa famille? Quelles sont les règles légales de répartition entre enfants et conjoints? Faut-il privilégier les donations de son vivant? Les grands-parents peuvent-ils favoriser leurs petits-enfants en sautant une génération? Que peut-on transmettre à son partenaire paxé ou à son concubin? Nous attendons toutes vos questions et témoignages sur l'héritage au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Pour vous répondre, la journaliste Marie-Françoise Husson et la notaire Flore de Saint-Maurice, avec nous également Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Bonjour Éric Thibiot.
Bonjour Ali.
Alors selon certains de vos fans, vous êtes l'héritier d'Alexandre Vialat et de Raymond Devos. C'est presque vrai. Quoi de neuf tout à l'heure dans vos choses presque vues?
Eh bien, écoutez, nous parlerons d'Alec Guinness dont la carrière est à consommer sans modération.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Marie-Françoise Husson.
Bonjour.
Rédactrice en chef adjointe du hors-série de notre temps consacré à l'héritage et aux successions. Bonjour maître Flore de Saint-Maurice.
Bonjour.
Vous dirigez une étude de notaire à Antony dans les Hauts-de-Seine. Première question pratique. Que se passe-t-il au décès d'une personne en l'absence de testament? Que dit la loi? Quels sont les membres de la famille qui peuvent hériter?
Alors, quand le défunt était domicilié en France, les personnes susceptibles d'hériter sont classées en quatre ordres. Tout d'abord, les descendants. Ensuite, deuxième ordre, en l'absence de descendants, les parents et les frères et sœurs. Ensuite, en l'absence de parents et de frères et sœurs, les ascendants ordinaires, c'est-à-dire les grands-parents, arrière-grands-parents. Et enfin, l'ordre des collatéraux ordinaires, c'est-à-dire les cousins. Tout
les
ça
oncles,
jusqu'au sixième
tantes,
degré. Oui, voilà.
Alors, dans le premier ordre, ceux qui héritent en premier, ce sont donc les descendants, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants du défunt.
Oui, tout à fait.
Alors, si je vous comprends bien, la priorité, ce sont les enfants. Qu'ils soient naturels, qu'ils soient adoptés, qu'ils soient issus de familles recomposées,
voilà.
Ce sont les enfants qui héritent en premier.
Plus de distinction entre les enfants depuis 2001.
Marie-Françoise Husson.
Oui.
Sur ces quatre ordres.
Oui. Alors, il y a effectivement quand même quelqu'un qui est important maintenant depuis 2006, c'est le conjoint. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, l'ordre bonapartiste régnait et c'était les enfants uniquement. Mais maintenant, le conjoint est aussi héritier réservataire, c'est-à-dire que sauf s'il y a des enfants et des dispositions particulières, il a droit forcément à un quart de la succession et les parents, eux, ne sont plus héritiers réservataires.
Ça veut dire quoi, héritier réservataire, maître de Saint-Maurice?
Ça veut dire être héritier en ayant une part qui est réservée par la loi, une part obligatoire dont on ne peut pas être déshérité.
Et il y a un mot qui va revenir sans doute ce matin, c'est quotité disponible. C'est quoi ça exactement?
Inversement, la quotité disponible, c'est ce dont le défunt peut disposer librement quand il existe des héritiers réservataires. Les héritiers réservataires, comme vous venez de le rappeler, ce sont les descendants et en l'absence de descendants, le conjoint.
Alors que se passe-t-il dans les familles recomposées? Les demi-frères et les demi-sœurs héritent de la même manière, sans discrimination?
Tout à fait. Et ça, c'est un point qu'en général, les clients ignorent. Quand on n'a pas d'enfant, qu'on n'a pas de conjoint, et donc que potentiellement les frères et sœurs sont appelés à recevoir la succession, les frères et sœurs qui ont les deux mêmes parents, les frères et sœurs germains, héritent dans les mêmes proportions que les demi-frères et sœurs.
Alors, je vous propose d'écouter un extrait des invités de mon père, Dan Leny. Le père souhaite avantager sa nouvelle compagne au détriment de ses propres enfants.
Je sais que vous n'attendez pas après mon héritage.
Et donc?
Et donc, Tatiana et Sorina n'ont rien. Je voudrais leur donner un coup de main, en leur laissant quelque chose après ma mort, voilà.
T'as qu'à leur faire une donation.
C'est très gentil de nous en parler, mais t'as pas besoin de nous pour ça.
Ah non, 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 mais je voudrais qu'elle puisse avoir l'ensemble.
L'ensemble? L'ensemble, tu veux dire tout?
Oui.
Tu veux nous déshériter?
Flore de Saint-Maurice, est-il possible en France de déshériter un enfant?
Non. En France, on ne peut pas déshériter un enfant. Néanmoins, c'est une question qui revient fréquemment dans les études. Et il existe des techniques pour diminuer les droits des enfants, voire même porter licitement atteinte à leur réserve héréditaire.
Alors, que dit la loi? On ne peut pas déshériter, mais c'est quoi les stratégies de contournement?
La stratégie la plus connue est sans doute l'assurance-vie. Mmh. Voilà, l'assurance-vie, on en parle souvent, elle a des intérêts qui sont fiscaux, mais elle a aussi des intérêts civils, puisqu'elle va permettre, dans une certaine mesure, de soustraire une partie du patrimoine aux droits des héritiers réservataires.
Mmh. Que dit la loi sur l'assurance-vie et l'héritage, Marie-Françoise?
Alors, la loi est assez claire sur ce point, effectivement, sauf qu'il y a quand même quelque chose que la loi interdit, c'est-à-dire de mettre, par exemple, tout son argent d'un coup sur une assurance-vie et désigner quelqu'un hors de la famille comme bénéficiaire. À ce moment-là, les héritiers réservataires peuvent se pourvoir en justice et demander une action en réduction pour être réintégrés dans leurs droits. En revanche, ce qu'on peut faire, la stratégie de contournement commence à être connue, c'est si on a quelqu'un dans sa vie qui est clandestin par rapport à sa famille, si on met régulièrement de petites sommes d'argent sur un contrat d'assurance-vie, la personne peut recevoir le contrat d'assurance-vie et il n'y aura pas versement disproportionné par rapport à ses moyens du moment, puisque ça aurait été fait discrètement tout le long de sa vie.
Alors, on a parlé de quotité disponible. Les sujets de discorde surviennent notamment sur cette quotité disponible. Flore de Saint-Maurice?
Oui, le fait d'avantager un enfant ou un tiers et donc d'utiliser son pouvoir de léguer cette quotité disponible à une ou plusieurs personnes déterminées, ça met pas une très bonne ambiance dans la famille.
Comment ça se passe en règle générale dans votre étude, si on prend votre cas particulier, ça se passe plutôt bien ou plutôt mal les successions?
Dans la majorité des cas, ça se passe bien. Dans la majorité des cas, on reçoit des gens qui sont dans une situation très difficile parce qu'ils viennent de perdre un être cher. Et puis, heureusement, ils ne sont pas habitués à ce genre de situation. Donc, ils ignorent le travail du notaire. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent eux-mêmes faire pour régler la succession. Dans la plupart des cas, ça se passe bien. Mais c'est vrai que c'est souvent le moment où de vieilles discordes peuvent ressurgir. Les parents ne sont plus là et c'est le moment du règlement des comptes.
On va y revenir tout à l'heure. Marie-Laure Zonshine.
Oui, concernant la réserve, justement, cette partie finalement qui doit être répartie à égalité entre les enfants. Il est dans nombreuses familles des cas où les enfants, malheureusement, sont malades, souffrent de handicap, ont des difficultés financières majeures lorsque l'autre dans la fratrie a beaucoup mieux réussi. Est-ce que ce sont des éléments qui sont pris en compte lorsqu'il vient l'heure du partage? Est-ce qu'il faut effectivement aller chercher dans la quotité disponible pour privilégier un de ceux-là? Que dit la loi de ce point de vue-là?
La loi ne prévoit pas de disposition particulière en faveur des héritiers qui en auraient le plus besoin. Le principe est celui d'une égalité parfaite.
Et il y a ce qu'on appelle le pacte successoral?
Les parents ont la possibilité de réaliser des pactes successoraux, effectivement, avec l'accord de leurs enfants. Mais ça, c'est une procédure assez particulière, puisqu'on peut faire renoncer par anticipation les enfants à l'exercice d'une action en réduction.
C'est quoi une action en réduction?
C'est justement l'action des héritiers réservataires pour demander leur part de réserve. Si un des enfants a des besoins particuliers et que l'ensemble de la famille est d'accord pour lui accorder des droits plus importants dans la succession, il est possible de le prévoir par anticipation et de signer un pacte successoral, une renonciation anticipée à l'action en réduction.
Marie-Laure Zonchard, je crois que vous aviez une question sur les animaux.
Oui, enfin, vous me l'avez soufflé. Elle est évoquée. Hein. Ne croyez pas que c'est totalement farfelu de ma part. Vous l'avez évoquée. On pense à Choupette et notre pauvre et défunt Karl Lagerfeld. Est-ce qu'on peut léguer tout ou partie de ses biens à son animal de compagnie?
Pas en France, non. Pas en France, c'est pas possible. Cela dit, je pense que Maître de Saint-Maurice le confirmera. Je pense qu'il y a beaucoup dans les études de personnes qui font ce qu'on appelle des legs avec charge. C'est-à-dire que anticipent avant leur décès de confier la garde de leur animal chéri à un ami, un proche, un parent suffisamment jeune pour pouvoir prendre la relève. Et à ce moment-là, se lègue, donc lègue une somme d'argent en confiant à la personne en question la charge de s'occuper de l'animal jusqu'à au décès de l'animal, pour le coup. Il y en a aussi qui demandent, par exemple, à ce que les cendres de l'animal soient mises avec les leurs. Bon, ça, je crois que c'est pas tout à fait possible non plus. Mais effectivement, les legs avec charge pour s'occuper d'un animal sont fréquents.
Éric Liot, vous ne pourrez pas être incinéré avec votre chat.
Ah bah, il serait temps que j'en ai un.
Allez, n'hésitez pas à témoigner, à poser vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Clara Marliot et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Claire Destacan. Et je vous propose d'écouter une chanson de 2009. Cette année-là naissait l'un de mes neveux et disparaissait la légendaire voix de France Inter, Macha Béranger.
Hey Lily, raconte-nous.
When she was 22, future looked bright. But she's nearly 30 now, and she's out every night. I see that look in her face. She's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here? Wondering. De sa petite carrière, loin de ce qu'elle rêvait hier, solitaire trentenaire. Seven is true, our society says her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. Elle voit la vie en duo, voit la suite du haut de ses épaules et de son dos. Elle envoie des mots qui tombent à l'eau. It's true how society says her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. Elle voit la vie en duo, voit la suite du haut de ses épaules et de son dos. Elle envoie des mots, mais des mots qui tombent à l'eau.
Lily Allen et Ours interprétaient 22.
Excusez-moi, parce que l'héritage, il est où?
Grand bien vous fasse.
Les sans patates.
Les sans, oui, sans patates.
À lire et bille.
Bah, clairement, c'est fini, héritage, il n'y a plus.
Voilà. Sur France Inter.
9h19, 10h19, parce que l'horloge est mal réglée, elle est encore à l'heure d'été. Et nous attendons ce matin toutes vos questions sur l'héritage et les successions au 01 45 24 7000 et sur le site de France Inter. Écoutons un extrait de l'excellente série Succession diffusée sur OCS. Dans cette famille fortunée, on sent bien que la succession ne va pas très bien se passer le jour où le patriarche disparaîtra. Tension à venir entre les enfants et la belle-mère dénommée Marcy.
Vas-y. Ah. On t'écoute.
Oui. Ça concerne le trust familial qui décidera de la suite des événements dans le cas peu probable où je viendrai à disparaître. Je compte ajouter Marcy en plus de mon nom et de vous quatre.
Wow, ok.
Et ma voix lui reviendra aussi à ma mort.
Quoi? Attends, donc ça lui donnera une double voix?
Ah, Kendall a déjà signé. Mais il me faudrait
quoi?
Toutes vos...
Deux voix? J'étais pas du tout...
Eh ben, allez, un petit caractère la prochaine fois, du coup.
Merde, c'est quoi ce bordel? Non, mais c'est du délire. Ça tient pas debout.
Je...
Quoi? Tu fais quoi?
Non, mais
c'est pas sérieux, merde!
Oui, on a quoi?
40 ans?
C'est pas
des
affaires,
ok? On a tous besoin de quelques conseils, mec.
Des conseils pourquoi? Accorder une double voix à une sorte de malade avide de pouvoir et qui fera Dieu sait quoi de l'entreprise parce qu'elle a enfermé la queue de notre père dans sa putain de chatte et qu'elle
lui
monte la tête à mon
tir. Le repas est prêt.
Extrait de Succession sur OCS. Alors, Maître Flore de Saint-Maurice, hein, on sent bien, là, le jour où le patriarche disparaîtra, ça va plutôt mal se passer. L'héritage est souvent un sujet de dispute, de zizanie dans les familles. Qu'est-ce que vous avez pu constater quand ça se passe mal dans votre étude?
Déjà, il y a des situations dans lesquelles ça peut se passer plus ou moins bien. Ce qu'on constate, c'est que lorsque la succession n'a pas été préparée, et particulièrement dans l'hypothèse d'une famille recomposée avec un conjoint qui n'est pas le deuxième parent, la situation va être plus conflictuelle que quand les choses ont été préparées en amont.
Marie-Françoise Husson de Notre Temps.
Oui. À lire Abbaye,
vous me parliez hors antenne d'une chose très intéressante, c'est qu'au moment d'une succession, bien souvent, on peut découvrir une partie cachée de la vie d'un des membres
de
la famille.
À Notre Temps, on travaille aussi avec des notaires qui nous racontent comment, c'est pas fréquentissime, mais ça arrive quand même, tout d'un coup, on voit arriver un héritier inconnu, c'est-à-dire que le père ou la mère a eu un enfant hors mariage dont tout le monde ignorait l'existence jusqu'au décès de son géniteur ou de sa génitrice. Et ça, en général, ça jette quand même, sinon un froid, en tout cas, un certain malaise.
Oui, là, ça rend la situation très, très complexe. Et effectivement, c'est une situation qui se présente.
Oui.
Bonjour Patrick Avran.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes psychanalyste, l'auteur de Psychanalyse de l'argent. Alors, on le voit, l'héritage empoisonne souvent les relations familiales. Hériter, c'est une question affective, une question de sentiment. Et pour certains, l'amour des parents se compte au moment d'une succession, au moment d'un héritage, hein, Patrick Avran.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce que met en jeu le moment d'hériter, c'est la relation qu'on a eue chacun avec ses parents. C'est-à-dire, les frères et sœurs, on les... Dans le cas le plus habituel, on va prendre les choses très simplement, ils ont le même père ou la même mère, mais en même temps, ils n'ont jamais exactement la même relation à leur père et à leur mère. Et à chaque fois, au moment de la succession, c'est autant une succession des questions d'amour qui, moi, il était mon préféré, toi, tu étais le préféré de ta mère, et tout ça, ça ressort. Et ce qui ressort au moment de l'héritage, et heureusement qu'il y a les notaires parce qu'ils remettent ça sur un plan matériel, ce qui ressort au moment de l'héritage, ce sont les conflits qui n'ont pas été réglés souvent dans la petite enfance.
Quelles sont les conséquences psychiques d'un héritage qui se passe mal?
Les conséquences psychiques d'un héritage qui se passe mal, elles sont propres à soi-même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on découvre, par exemple, que contrairement à ce qu'on pensait, on n'était pas le préféré de sa mère. Et surtout, les conséquences qui sont, je veux dire, dans la vie quotidienne, c'est souvent, quand ça se passe mal, des brouilles, et parfois des brouilles définitives, entre frères et sœurs, entre demi-frères et demi-sœurs. Et c'est quelque chose que je pense qui est lié pas tant aux questions matérielles qu'aux questions affectives qui se rejouent à ce moment-là.
Un héritage qui se passe mal a des conséquences lourdes, hein, avec en ligne de mire le spectre de la destruction de la famille. Hein.
Le spectre de la destruction de la famille, surtout si à ce moment-là, il y a des clans qui se forment et puis des guerres de clans qui se passent. Et le grand avantage des notaires, je dis, c'est justement de mettre les choses à leur place. Et d'autre part, ce qui me semble essentiel, c'est que, comme ça a été dit par les notaires, effectivement, c'est d'une part de préparer, et d'autre part aussi de ne pas mettre trop d'enjeux. C'est-à-dire que, par exemple, quand les enfants héritent, qu'ils ne mettent pas en jeu leurs propres enfants, hein, qu'au moins les cousins puissent avoir des relations qui se continuent.
Patrick Avran, peut-on dire qu'une succession est le révélateur ultime de la solidité des fondations d'une famille ?
Le révélateur ultime, sans doute, oui. Mm. C'est-à-dire que c'est le dernier moment. Mm. On peut dire que c'est souvent autour du tombeau dans le cimetière, au moment de l'enterrement, que la famille parfois se réunit pour la dernière fois, quand ça se passe mal.
Alors, Flore de Saint-Maurice, les notaires ont donc un grand rôle de pacificateur. Il faut user de psychologie dans votre métier,
oui,
évidemment.
Dans la plupart des cas, je rappelle que ça se passe bien, mais quand ça se passe mal, il faut effectivement resituer le débat sur le matériel. Moi, ça m'arrive de recevoir des clients dans le cadre de successions conflictuelles qui parfois d'ailleurs durent depuis des années. Parfois, les clients arrivent à l'étude quand ils sont déjà allés voir plusieurs notaires différents. Mon entrée en matière, c'est de dire aux clients, voilà, aujourd'hui, on va faire un point, c'est de l'administratif.
Alors pour éviter, vous restez avec nous Patrick Avran, vous intervenez quand vous le voudrez, pour éviter les guerres de succession, mieux vaut préparer sa succession. Marie-Françoise Husson, quelles sont les grandes règles, les conseils de base ?
Alors les conseils de base, effectivement, c'est anticiper au maximum et parler en famille, parce que si effectivement personne ne dit rien à personne, si on donne une petite somme d'argent en douce à un de ses enfants, alors tu n'en parleras pas à ton frère, etc., c'est sûr que au moment de la succession, tout ça va vous exploser à la figure. Enfin, le défunt, lui, il s'en fiche, mais les survivants vont être vraiment perturbés. Alors donc, pour préparer, le plus simple, déjà, c'est de voir si on possède quelque chose à transmettre, de faire le point de sa situation. Est-ce qu'on a des biens ? Il y a des gens qui n'ont rien. Hein. La moyenne des successions en France, c'est 40 000 euros. Hein. Donc, effectivement, on évite le trust et les soucis de famille dont on a entendu tout à l'heure parler. Donc, on fait le point de ce qu'on possède, on fait le point de ses comptes en banque, on réunit ses enfants ou on leur parle à chacun et on explique ses intentions.
Lors de Saint-Maurice, conseil de base pour bien préparer sa succession.
Je vous rejoins, il faut parler, il faut être transparent, il faut autant que possible essayer d'être équitable, pour que les enfants reçoivent la même chose, ou en tout cas chacun selon son besoin, et avec une belle explication de texte.
Bonjour Christian, bienvenue.
Bonjour, je vous remercie de prendre mon appel.
Quel est votre témoignage, votre question ?
Voilà, ma question, je vais vous expliquer un petit peu ma situation. Nous sommes mariés et nous avons eu chacun un enfant d'un premier mariage. Au niveau de la succession, nous avons un contrat de mariage. Et au niveau de la succession, je vais prendre l'exemple, je décède en premier. Ma femme a bien entendu la moitié des biens et va hériter d'un quart de mes biens. Ce qui fait que son enfant va hériter globalement de la moitié plus un quart de mes biens. Et ma fille n'aura donc que trois quarts de mes biens. Donc, il y a une inégalité entre les deux enfants à la sortie, si je peux dire. Je voudrais savoir s'il existe un moyen d'égaliser la succession des deux parents vis-à-vis des deux enfants.
Très bonne question, Flore de Saint-Maurice.
Oui, il existe des moyens plus ou moins radicaux. En partant du plus radical, il peut arriver dans certains contextes qu'on soit amené à conseiller au couple recomposé d'adopter l'enfant respectivement l'un de l'autre. Bon, ça, c'est des cas qui sont assez rares parce que l'adoption étant presque irrévocable, il faut que ça corresponde à une envie familiale. Moins radical, simplement faire un testament ou une donation entre époux. Un testament dans lequel vous avez la possibilité soit de priver votre épouse de tous ses droits dans votre succession, ainsi votre moitié des biens reviendra à votre fille, ou si vous avez le souhait de protéger votre épouse sa vie durant, de lui laisser un usage de vos biens, un usufruit sa vie durant, et à son propre décès, cet usufruit s'éteindra et votre fille recevra l'intégralité de ce qui était votre part des biens communs.
L'usufruit, Flore de Saint-Maurice, c'est quoi?
La possibilité d'utiliser les choses et d'en percevoir les revenus. Par exemple, pour un appartement, d'utiliser l'appartement et d'en percevoir les loyers si jamais l'appartement est loué.
Christian, est-ce que nos réponses vous conviennent?
Oui, ça me semble être une bonne solution, mais je ne pensais pas qu'on pouvait... par testament, je ne pensais pas qu'on pouvait, entre guillemets, déshériter et laisser uniquement l'usufruit de la part de mon héritage à mon épouse.
Si vous êtes marié, vous avez la possibilité de laisser l'usufruit de vos biens à votre épouse.
Oui, bien sûr.
Et votre fille n'est pas déshéritée. Elle recevra. Voilà. Elle et votre fille recevra la totalité de la propriété au décès de votre épouse. Donc elle est protégée et votre épouse également.
Merci beaucoup, Christian, de nous avoir appelé. Bienvenue, Dominique. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse.
Bonjour.
Alors, vous êtes enfant unique, vous, c'est ça ?
Qui me perturbe depuis plusieurs années. Mmh. Je suis enfant unique et je n'ai pas pu avoir d'enfant. Mmh. Ma seule descendance, c'est ma mère qui a 87 ans et deux cousines et un cousin. Mmh. Je vis actuellement avec mon compagnon qui, lui, a trois enfants de sa vie précédente. Et donc, ma préoccupation, c'est de savoir comment je pourrais transmettre mais bien auprès de ses enfants, et j'ai aussi une ex-belle-fille que je souhaiterais avantager aussi. Alors elle, c'est plus compliqué certainement par le biais de l'assurance vie, mais les trois enfants de mon conjoint, comment ils pourraient hériter de mes biens ?
Flore de Saint-Maurice.
Première solution.
Adopter ?
Alors oui, l'adoption peut être envisagée si vous vous mariez avec votre compagnon. Parce que dans cette hypothèse-là, l'adoption simple des enfants du conjoint marié permet fiscalement de produire les effets fiscaux d'une filiation naturelle. Je m'explique. Si, aujourd'hui, vous n'avez pas d'héritier réservataire. Donc, vous avez la possibilité de faire un testament dans lequel vous léguez vos biens à la personne de votre choix. Ça peut être votre compagnon, ça peut être les enfants de votre compagnon. Si vous n'êtes pas pacsé avec votre compagnon, la fiscalité de la transmission sera très élevée. On est à 60% de droit. De même que la transmission à ses propres enfants. Donc en fait, le travail du notaire, ça va être de vous conseiller de telle sorte que votre souhait de transmission soit respecté, mais que la fiscalité soit également optimisée. Et on a des solutions.
Merci beaucoup Dominique de nous avoir appelé. Lily nous demande si elle peut léguer à ses petits-enfants en sautant la génération des parents. Si oui, dans quel cadre juridique ? Est-ce qu'elle peut léguer à ses petits-enfants sans rien laisser à ses enfants ?
Les enfants sont héritiers réservataires et elle ne pourra pas léguer l'intégralité de son patrimoine à ses petits-enfants sans l'accord de ses enfants.
Marie-Françoise Husson.
Il faut que les enfants soient d'accord, autrement, effectivement, elle peut faire une donation transgénérationnelle et effectivement, les petits-enfants hériteront. Et c'est possible, effectivement, mais si les enfants sont d'accord, on ne peut pas les déshériter.
Marie-Laure Sunshine.
Oui, vous évoquiez tout à l'heure Marie-Françoise Husson, vous parliez d'enfants à qui on a donné un petit coup de main durant sa vie. Alors imaginons, on va parler de chiffres, 50 000, 100 000 euros, voire plus, un petit appartement. Encore une fois, je prends l'exemple d'un enfant qui a plus de difficultés qu'un autre. C'est une somme qui, au final, lorsque le parent décède, n'est plus dans les comptes, si je puis dire. Est-ce que les autres enfants survivants sont fondés à dire 100 000 euros ont été versés à tel enfant ? Ils doivent être réintégrés dans la succession et répartis de façon égalitaire.
Ah, mais de toute façon, ils seront réintégrés dans la succession, ces 100 000 euros, au moment de la succession et des comptes et du rapport des sommes qui ont pu être données aux autres enfants, enfin aux uns et aux autres. Et si cette somme a été consommée avec les 100 000 euros, l'enfant a fait, le tour du monde, s'est acheté des voitures, etc.
Ça sera
100 000 euros. Mais si l'enfant s'est acheté un appartement, par exemple à Paris, mairie et que depuis le moment où la donation a été faite, l'appartement a triplé de valeur, on considérera qu'il aura reçu pas 100 000 mais 300 000 euros et à ce moment-là, le partage sera affecté en fonction de ça. Donc le meilleur moyen, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut se parler, il faut être transparent, comme disait Maître de Saint-Maurice, et le meilleur moyen de mettre ses enfants sur un pied d'égalité, ce qui est effectivement souhaitable aux yeux de la loi, c'est de faire ce qu'on appelle une donation partage, c'est-à-dire de donner à chacun une même somme, et à ce moment-là, la valeur des sommes ou des biens est figée au jour de la donation, et il n'y a plus de soucis au moment de la succession.
On verra tout à l'heure la différence entre la donation et la donation partage. En attendant, il est temps de retrouver les choses presque vues d'Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose vue.
Et non, il n'est toujours pas psychiatre, psychothérapeute, ni médecin, Éric Libiot et ses choses presque vues.
Alors vous l'avez remarqué Ali, dès qu'on raconte des histoires, il faut toujours que ça se passe mal, les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Dans les choses presque vues de la fiction, il faut toujours un drame, un conflit, un méchant, un délit. Un héritage qui se passe bien, c'est triste à raconter, alors que dans les histoires, hériter, c'est irriter. Et s'il y a bien un personnage qui est très irrité par l'héritage, c'est Louis Mazzini d'Ascogne, mis au banc de la famille parce qu'il est un enfant illégal. Il est donc perdu dans l'arbre généalogique entre l'écorce et les feuilles. Et pour hériter du titre de duc de Chalvon dont il rêve, il prévoit de tuer tous ses ascendants, car il a une dent contre ceux qui passent par la couronne avant lui. Ça fait du boulot, ça fait surtout un film formidable, Noblesse oblige, de Robert Hamer en 1950, avec Alec Guinness dans 8 rôles. Un film classique de l'humour anglais d'après-guerre qui a connu son remake dans la série d'Amicalement Vôtre avec Roger Moore dans le rôle de Alec Guinness. Bon, ça c'est sûrement beaucoup plus votre truc, Ali. Tout ça pour dire quoi? Eh bien là est la question. Alec Guinness, mis en bière le 5 août 2000 et acteur dont la carrière est à consommer, est à consommer avec modération. Il a joué dans quelques grands films dont Le Pont de la Rivière Kouai, Laurence d'Arabie, de Laurent Barre, Tueur de Dames ou Docteur Jivago. Mais ce ne sont pas eux qui m'intéressent. Ceux qui m'intéressent, il les a tournés en fin de carrière, car oui, mesdames et messieurs, l'immense Alec Guinness a été Obi-Wan Kenobi dans la première trilogie réalisée de la Guerre des Étoiles. Il a été Obi-Wan Kenobi, donc le maître de celui qui deviendra plus tard Dark Vador. Reconnaissez que ce n'est pas rien. Obi-Wan Kenobi, alias Alec Guinness, a été un Jedi tous les jours de la semaine. Celui qui lègue un pouvoir ancestral à de jeunes padawans qui, à leur tour, héritent du titre du Jedi. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, effectivement, là est la question. En tout cas, si je peux me permettre de m'immiscer dans votre émission, un héritage est aussi quelque chose d'immatériel. Héritage intellectuel, héritage culturel, héritage spirituel. Noblesse oblige et la saga de la Guerre des Étoiles font partie de mon héritage de cinéphile, avec Rio Bravo évidemment, comme Dos Passos, Jim Thompson ou Georges Perec appartiennent à mon héritage culturel, toute chose primordiale que je répands comme bonne parole autour de moi, car c'est transmettre une histoire, un travail, une œuvre. Transmettre le goût du cinéma hérité de mes parents, c'est aussi transmettre la parole artistique de gens que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais, ou plutôt que je ne connaîtrai que par des œuvres qu'ils ont léguées au monde et dont chacun fait ce qu'il veut. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, toujours la question, Ali, dans les années 90 et plus encore au début du 21e siècle, à côté du patrimoine mondial, les sites protégés, il existe un patrimoine immatériel de l'humanité, comme par exemple le repas gastronomique français, la lutte traditionnelle coréenne, le chant polyphonique géorgien, l'art du pizzaiolo napolitain ou le fest-noz breton, bien évidemment. Ce sont des héritages, là aussi, à consommer sans modération. La lutte traditionnelle coréenne balance au tapis le discours haineux entendu ici ou là, l'art du pizzaiolo napolitain, mais une tarte aux adeptes du grand remplacement, le repas gastronomique français couronne le bar en papillote, la côte de bœuf et le couscous royal, et la Guinness ne mourra jamais. Tout ça pour dire quoi? Eh bien tout ça pour dire que cet héritage immatériel mondial, c'est le nôtre, la richesse de l'humanité passe par là, la connaissance de l'autre, l'altérité, la curiosité, la cueil et la découverte, une seule solution, que la force de la culture soit avec vous tous.
Éric Libiot et ses choses presque vues à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Allez, nous attendons toutes vos questions sur l'héritage et les successions au 01 45 24 7000 et n'hésitez pas à nous raconter vos histoires d'héritage dignes d'une fiction.
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque je tiens dans ma main ton poing serré et rien ne peut.
Clara Luciani interprétait ma sœur.
Ah, ça part sévère, les droits de succession.
Grand bien vous fasse.
Quand le lion est mort,
Ali Rebéi.
Les chacals se disputent l'empire.
Sur France Inter.
9h42 et nous attendons ce matin toutes vos questions sur l'héritage et les successions au 01 45 24 7000. Maître Flore de Saint-Maurice, quelles sont les grandes règles de la donation de son vivant? Et quelle est la différence entre la donation et la donation partage?
Alors,
vous avez 30 secondes.
La donation partage, vous l'avez très bien définie tout à l'heure, c'est celle qui permet de donner en même temps à l'ensemble de ses enfants, en faisant en sorte qu'au moment de son décès, il n'y ait pas besoin de rapporter à la donation ce qui avait été donné. Donc, c'est une donation qui a le grand mérite de permettre de faire l'égalité à un instant T et d'éviter d'en reparler plus tard. Ça s'oppose aux donations simples. Les donations simples, c'est des donations qu'on va réaliser au fil de l'eau, à ses enfants, peut-être par don manuel en donnant une somme d'argent ou alors en donnant un bien à un enfant déterminé.
Chaque enfant peut recevoir 100 000 euros de chacun de ses parents tous les 15 ans, c'est ça Marie-Françoise Husson de
oui,
notre temps.
Alors 100 000 euros plus une somme d'argent de 31 865 euros. Ah, oui. C'est-à-dire qu'au départ c'était 30 000 et puis ça a été réévalué et puis figé à 31 865. Et donc ça c'est une somme d'argent qui peut être donnée aussi tous les 15 ans, mais à condition que le donateur, c'est-à-dire la personne qui donne, ait moins de 80 ans et le donateur, celui qui reçoit, soit majeur. Donc on a intérêt à s'y prendre tôt si on veut le faire plusieurs fois dans sa vie. Et c'est pareil pour les grands-parents d'ailleurs. Hein. Mais effectivement, autrement, chaque parent peut donner à chaque enfant 100 000 euros tous les 15 ans.
Et c'est fiscalement neutre. Hein,
peut-être c'est fiscalement neutre. Ouais.
Alors nous recevons beaucoup, beaucoup de questions sur le cas du conjoint. Que se passe-t-il quand on est en concubinage ou quand on est paxé? De quoi on hérite?
De pas grand-chose, de rien. De rien. De rien.
Parce qu'on est étranger, c'est ça,
oui,
selon la loi.
Tout à fait. Oui. Quand on est paxé, on a la possibilité de se maintenir dans le logement pendant un an. Mm-hmm. Mais à défaut de testament, le principe, c'est qu'on hérite de rien.
Donc, la meilleure protection, c'est de signer un pax quand on est concubin et d'établir un testament en faveur de son partenaire, c'est ça?
Tout à fait.
Alors le testament, je le rappelle, selon le code civil, c'est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer, c'est-à-dire modifier ou annuler. On le rédige comment ce testament? On peut le rédiger seul, chez soi, on va chez vous, on va voir un notaire. C'est quoi, quelles sont les règles?
Il y a un formalisme obligatoire, donc il faut respecter un certain formalisme pour que le testament soit valable. Le testament le plus simple, c'est le testament holographe. C'est un testament qui est écrit de la main du testateur, daté et signé. Et ce testament, dès lors qu'il est écrit, daté, signé de la main du testateur, il est parfaitement valable, quand bien même il n'aurait pas été déposé chez un notaire. Bon, toutefois, je pense que ça vaut le coup de se faire accompagner par un jury juriste pour écrire un testament qui soit bien compréhensible et valable.
Ça apporte plus de sécurité juridique.
Oui, et également de le déposer chez son notaire de façon à ce qu'il soit enregistré au fichier des testaments. C'est un fichier national que tout notaire appelé à régler à une succession va consulter.
Combien ça coûte, me demande du regard Eric Thibiot, d'établir un testament chez un notaire ?
Ça dépend. La plupart des actes passés chez les notaires sont tarifés par décret et donc identiques, quel que soit le notaire. La rédaction d'un testament, c'est quelque chose qui est en honoraire libre, donc il faut demander. Il y a des frais d'enregistrement du testament au fichier qui sont d'environ 11,50 €, donc va s'ajouter à cette somme les honoraires de rédaction.
Pouvez-vous parler de l'héritage pour les couples non mariés et sans enfants ? On a droit à rien, nous dit Conception. Comment ça se passe ?
Les couples mariés sans enfants.
C'est le cas qu'on vient d'évoquer.
Couples non mariés.
Non mariés.
Qu'est-ce que j'ai dit? Non mariés, pardon.
C'est non mariés.
Non mariés, oui, les couples non mariés,
ouais. Oui, sauf un testament, effectivement, il n'y a pas de droit pour le conjoint. Et si par hasard on fait un testament sans être paxé, la problématique est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la fiscalité, 60% d'impôt sur ce qui est légué.
Quand on n'a pas d'enfant et que ses propres parents sont décédés, je peux léguer à qui je veux en l'absence de testament.
Oui, sauf si je suis mariée. Le conjoint marié en l'absence d'enfant est héritier réservataire d'un quart.
Et si on n'est pas marié, qu'on n'a pas d'enfant,
on est parfaitement libre de léguer l'ensemble de ses biens à la personne de son choix.
Avec un testament.
Avec un testament.
Elle aura simplement 60% de droits de succession à payer dessus. Voilà. Alors il y a une astuce qui consiste à faire passer le legs par une association qui sera libérée, enfin qui n'aura pas de droit de succession à payer, et à ce moment-là la somme peut être donnée nette au récipiendaire du legs. Mais enfin bon, c'est un peu compliqué à monter.
Marie-Laure Zonschein.
Oui, puis n'oublions pas qu'il n'y a personne, aucun héritier ascendant-descendant, c'est l'État qui rafle la mise quand même.
Oui, à la fin, oui, c'est l'État qui remporte.
Donc vous voulez peut-être donner, effectivement.
Mais il y a bien souvent quelqu'un, il faut aller jusqu'au sixième degré. Oui, c'est quelqu'un qui décède sans avoir fait de testament et qui n'a pas de proches parents, le notaire va être bien embêté, il va devoir demander à un généalogiste de retrouver les cousins dans la branche maternelle, paternelle, en remontant jusqu'au sixième degré. On a de bonnes chances d'ailleurs que ce soit des personnes que le défunt connaissait même pas.
C'est l'histoire de l'oncle d'Amérique, oui, c'est-à-dire exactement. Un jour on vous téléphone et voilà.
Nicole nous demande s'il est possible de refuser une succession.
Oui, il est possible soit d'accepter la succession purement et simplement, dans ces cas-là on reçoit tous les actifs, toutes les dettes, soit d'y renoncer, on reçoit rien, soit d'accepter à concurrence de l'actif net, donc procédure qui permet d'accepter la succession seulement si elle est bénéficiaire.
Marie-Françoise Husson, vous confirmez ?
Je confirme, absolument.
Quid des biens meubles, des objets, de la vaisselle ? Comment ça se passe, la répartition, quand il n'y a pas de testament ? Comment ça se passe ? Voilà.
Il faut que les héritiers s'entendent et se les partagent. Mais c'est très rare que ça arrive jusque chez le notaire. Aujourd'hui, les meubles, sauf cas particuliers, n'ont aucune valeur ou une très très faible valeur. Les bibelots, les objets, quand on fait passer un commissaire-priseur pour lui demander si y a matière à faire une vente publique, c'est rare qu'il considère que les meubles ont de la valeur.
Vous n'êtes pas allé chez Eric Libio, de très beaux objets,
alors,
de très beaux bibelots.
Il faut qu'il y ait des tableaux et des bijoux de valeur.
J'ai un De Vinci dans ma cuisine, comme la dernière qui a hérité de 23 millions. Voilà, mais je ne le dis à personne.
Non, mais comment ça se passe avec les objets de valeur ? Quand on se les dispute et qu'il n'y a pas de testament, comment on fait ?
Comme pour le reste des actifs, il faut s'entendre sur un partage. Et à défaut d'accord, c'est le juge qui finit par départager les héritiers.
Patrick Avran, vous êtes toujours avec nous, vous êtes psychanalyste et l'auteur d'une psychanalyse de l'argent. Vous vouliez évoquer la question de la mort, qui est quand même la question en filigrane de notre émission ce matin.
Oui, c'est-à-dire que, effectivement, tout ce que tout le monde dit, c'est que c'est essentiel d'en parler avant. Mais toute la difficulté, c'est quand on en parle avant, de ne pas penser qu'on va tuer ou qu'on a envie de tuer celui à qui on parle de son héritage. C'est-à-dire dire à son père, il faudrait que tu prépares ta succession, il faut que ça soit mis du côté de « c'est la vie qui continue ». Et souvent, des enfants s'interdisent de parler de cela parce que justement, ils ont l'impression qu'ils sont en train de vouloir mettre à mort leur père ou leur mère. Et toute la difficulté est là. Et je pense que c'est dans ce cas-là, c'est Je dirais c'est ce que le psychanalyste entend. Ça, il ne peut rien y faire. En revanche, c'est important sans doute que ce soit celui qui va léguer, qui prépare la chose, et que d'autre part, effectivement, ce soit le plus possible avec un spécialiste, c'est-à-dire avec un notaire, que ça puisse se préparer. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas cet enjeu affectif. Hein. Mm-hmm. Je suis en train de te demander ce que tu vas faire de ta succession, ça ne veut pas dire nécessairement « je veux que tu meurs tout de suite ».
Encore un rôle de psychologue pour le notaire Flore de Saint-Maurice.
Oui, rôle de psychologue qu'on va souvent aborder sous un angle fiscal qui permet de dédramatiser les choses. Vous venez me voir pour préparer votre succession, très bien, on va parler de fiscalité. Hein.
Ça détend tout de suite.
C'est comme l'analyse avec l'argent, hein, c'est pareil.
Alors, il y a un mot qui revient dans les questions d'héritage, c'est l'indivision qui est souvent une source de conflit. C'est quoi exactement l'indivision, Marie-Françoise Husson ?
Bien, c'est quant au décès de quelqu'un, les héritiers, en général les frères et sœurs se retrouvent par exemple héritiers de la maison de famille. Mmh. Ils sont donc propriétaires en commun d'un bien et il va falloir qu'ils s'entendent sur le devenir de ce bien, c'est-à-dire soit le garder, mais en général l'indivision n'est pas vouée à durer parce que c'est frette quand même là très fréquemment source de conflit. Donc il faut s'entendre pour on le garde, on le loue, on le vend, qu'est-ce qu'on en fait ?
Nathalie nous dit « Maman est décédée depuis 2 ans et demi, la succession n'est toujours pas réglée, notre sœur aînée fait barrage, elle s'est appropriée la maison alors que nous avons, moi et ma petite sœur, nos affaires, alors que notre sœur aînée n'y a jamais vécu. » Voilà, c'est des cas qui reviennent beaucoup ce matin, Flore de Saint-Maurice, ce genre de cas.
Oui, c'est des situations qui sont fréquemment conflictuelles. Et oui, qu'on rencontre dans la pratique, le principe qui est posé par le Code civil, c'est que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision et que le partage peut à tout moment être provoqué. Mmh. Dans la pratique, ça signifie qu'il faut saisir un avocat, aller devant le juge, pour demander la vente aux enchères du bien. Donc ça va mettre beaucoup de temps et freiner les gens.
Et ça va coûter cher aussi.
Allez, n'hésitez pas à témoigner, à poser vos questions sur l'héritage et les successions au 01 45 24 7000.
Drills that we ran under the freeway overpass, the tears behind your dark sunglasses, the fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me, not behind me. Feel my unconditional love.
Haïm interpréter Summer Girl.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et nous attendons toutes vos questions sur l'héritage et les successions 01 45 24 7000. Marine nous dit, nous sommes trois et l'un de nous veut reprendre la ferme familiale. Il faut donc poser les choses à plat, mais nos parents ont beaucoup de mal à le faire. Comment les y inciter sans être pesant pour eux? On a la sensation que ça marque la fin de leur carrière et par extension de leur vie. Patrick Avran, psychanalyste, auteur de Psychanalyse de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut dire à Marine?
Eh bien, qu'il faut penser effectivement à la continuation et pas à la mort. Mm-hmm. C'est-à-dire que si c'est une ferme, pour autant que je sache, il y a des conditions particulières, je crois, pour celui qui reprend la ferme a le droit de reprendre toutes les terres. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut considérer comme n'étant pas du côté de la mort, mais du côté de la vie. Et c'est toute la difficulté, effectivement, et ça peut se faire en dédramatisant. Pas en dédramatisant comme ça bêtement, mais en posant les choses de la manière la plus matérielle possible, il me semble.
Jamel nous demande, mon père ayant de l'immobilier, j'habite dans l'une de ces maisons depuis 35 ans et j'y ai toujours vécu gratuitement. J'ai des frères et sœurs, et eux n'ont jamais profité de ces biens comme moi. Que se passera-t-il lorsque mon père ne sera plus de ce monde, Fleur de Saint-Maurice?
C'est une question compliquée.
Oui, très compliquée.
La question de la donation de fruits et revenus. Est-ce qu'on peut analyser cette utilisation gratuite du logement comme une donation qui serait à rapporter à la succession? Est-ce que les parents qui laissent le bien à disposition de leur enfant ont une intention libérale, donc cette intention de donner, ou est-ce qu'ils ne faisaient que s'acquitter d'une obligation alimentaire? Selon les cas, la réponse va être différente. En tout cas, ce qui est important, c'est que les parents se saisissent de la question de leur vivant et qu'ils aillent voir leur notaire pour essayer de la régler.
Bonjour Annie, on termine avec vous. Bienvenue dans l'émission.
Oui.
Témoignage.
Oui, bonjour. Ma cousine qui ne disposait
on vous écoute,
que de
Annie.
Maison et de quelques souvenirs de ses meubles a tout donné à une fondation. Au moment de son décès, comme tout avait été donné, je ne suis pas intervenue pour récupérer des biens personnels qui pouvaient être des photos, des papiers de famille, pensant que tout était dévolu à la fondation. Et en fait, je me suis rendu compte a posteriori que ce qui intéressait, c'était uniquement les biens immobiliers qui allaient être mis en vente pour récupérer l'argent. Et c'est carrément Emmaüs qui est passé pour tout vider. Donc, est-ce que j'avais le droit, la possibilité, en demandant au notaire d'accéder à ce que je considérais un peu comme des souvenirs des biens de famille? Sans valeur, naturellement.
Alors, le notaire n'a pas la possibilité de vous accorder ce droit. Je pense que il est préférable dans ces cas-là de prendre contact avec l'association pour, de manière informelle, demander à récupérer ces objets qui, sinon, de toute manière, seront détruits et vont pas être récupérés par Emmaüs.
Merci beaucoup Annie de nous avoir appelé. Le maître mot pour bien préparer sa succession, c'est d'anticiper, parler. C'est ça le maître mot, Marie-Françoise Husson.
Anticiper, parler, absolument.
Fleur de Saint-Maurice.
Oui.
Merci à tous. Merci Fleur de Saint-Maurice. Merci Patrick Avran, Marie-Françoise Husson. Le hors-série de notre temps consacré à l'héritage est disponible en kiosque. Demain, on s'intéresse aux maths au quotidien. Le mathématicien Michael Launay nous montrera que les maths permettent de comprendre certains rouages de l'univers, évidemment, de la nature et de notre vie quotidienne. Et sachez que demain, nous enregistrons une émission consacrée à la question du don avec le sociologue Alain Caillé. N'hésitez pas à nous raconter pourquoi vous donnez de votre temps à des association. Racontez-nous ce que vous apporte le fait d'être bénévole sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.